Annie avait eu l'idée très heureuse, effectivement, de mettre l'hospitalité à l'ordre de ses séances philosophiques. Je pense en effet que c'est une idée tout à fait importante, à la fois dans l'histoire, du point de vue philosophique, et particulièrement, d'ailleurs à l'heure actuelle, aussi dans le domaine de la politique, dans le domaine de la vie courante, de la vie sociale. Et quand on parle d'une façon explicite en mentionnant le mot ou non, on voit bien que dans énormément de cas, le problème qui est mis au centre de préoccupation est bien celui de l'hospitalité, si on entend par ce mot, effectivement, celui de l'accueil, de l'étranger, de l'ouverture, si l'on peut dire, des portes à l'étranger, problème qui ne concerne pas simplement la France, d'ailleurs, qui concerne également l'Europe, aussi au premier chef. Le problème, l'hospitalité devient en quelque sorte d'une façon un peu paradoxale, parce qu'elle le devient par l'intermédiaire de ce dont on prend conscience, c'est-à-dire plutôt d'un refus d'hospitalité ou d'un closus numerus, d'une limitation de cet accueil entendu comme hospitalité plutôt que de cette ouverture et cet élargissement de l'accueil. Donc tout cela fait que, étant donné que la philosophie a pour but de raisonner contre les idées reçues, à la fois d'être malgré tout à l'écoute et aux informations relativement à ce qui se fait et se dit dans l'actualité, mais en même temps de raisonner contre les idées reçues, d'avoir relativement à tout cela une situation et une position intempestive. Le problème de l'hospitalité est donc, on pourrait dire, de façon paradoxale ou de façon intempestive, le problème de notre temps, c'est-à-dire un problème qui n'est pas dépassé, qui n'est pas résolu, qui se repose constamment dans des situations nouvelles. Voilà un peu quelle avait été mon idée. Maintenant, comme j'ai écrit des choses sur l'hospitalité depuis au moins une dizaine d'années, puisque la première publication que j'avais faite, qui est ici dans une réédition, s'appelait Zeus Hospitalier, la dernière portant le nom d'hospitalité, et celle-ci qui a été... Je les présente, c'est pour faire de la publicité, parce que ce sont des éditions qui effectivement sont mal distribuées, qui ne se trouvent pas facilement, alors je suis bien obligé de montrer que ça existe. C'est un ensemble, en fait c'est un livre qui est original, mais qui est formé par un ensemble de textes. C'est plutôt un recueil qu'un livre, mais enfin entre les deux, recueil et livre, il n'y a jamais beaucoup de différence, parce que entre le moment où ce Zeus Hospitalier était sorti et ces dernières années, celui-là a paru en 2004, et il y a eu beaucoup d'organisations, de colloques, autre chose, qui ont pris l'hospitalité justement pour thème, non pas en raison de ce que j'avais écrit moi-même d'ailleurs, mais en raison des circonstances. Comme toujours, il y a une idée qui est dans l'air, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui écrivent simultanément, concurremment, un petit peu sur cette idée. Ça, c'est un phénomène qui est remarqué par tout le monde. Donc il y a eu des textes sur l'hospitalité, des séminaires et autres. Il y a Jacques Derrida qui a tenu tout un séminaire sur l'hospitalité. L'attention a été portée sur les développements et l'importance qu'avait donné à l'hospitalité Emmanuel Lévinas dans l'ensemble de son œuvre. C'est d'ailleurs peut-être le premier, je le disais, lors d'une réunion ici où c'était Paulette Kaiser qui en parlait, c'est sans doute le premier qui ait introduit ainsi cette notion d'hospitalité, non pas comme une sorte de simplement de coutume ou de manière de se comporter, mais comme étant... j'y reviendrai là-dessus uniquement, là, tout à l'heure, comme étant un concept opératoire. C'est-à-dire, j'entends par là concept opératoire, c'est quelque chose qui sert au fond de, comme le dit un peu le titre de ces séances ici, prêt à penser, sert à penser. Qu'est-ce que tu avais mis là?
Et
c'était pas mal. Comment?
Ce qui force à penser.
Force à penser, c'est ça, comme quelque chose qui force à penser, qui conduit, donc qui organise la pensée, qui l'oriente, et qui fait que beaucoup de choses à quoi l'on n'avait pas pensé vont s'organiser tout à coup autour de cette notion d'hospitalité. Alors, je voulais dire par là que ce petit recueil avait été fait justement à partir d'articles, communications à des colloques qui ont porté sur l'hospitalité. Je signale dans le domaine... Ah, vous avez peut-être un petit papier encore qui reste, si vous voulez l'avoir. J'en ai besoin juste d'un pour moi. Oui. Là, il n'y en a pas un autre, hein. Oui, il y a eu également tout un centre de recherche qui, pendant ces dernières années, a fonctionné autour de cette notion d'hospitalité et qui a eu des publications en très grand nombre. C'est Alain Montandon qui est professeur de lettres comparées à l'université de Clermont-Ferrand et qui a fait paraître un énorme recueil, je dis énorme, oui, tout à fait gigantesque, de plusieurs milliers de pages, qui est une encyclopédie de l'hospitalité qui a paru je ne sais pas si c'est à Clermont-Ferrand, aux presses universitaires de Clermont-Ferrand, ou si ça a été édité par les presses universitaires de Paris. Enfin, de quoi qu'il en soit, ça ne fait rien. C'est un très, très, très gros volume qui comporte des articles. J'ai fait là-dedans un de ces articles de cette... il n'est pas conservé dans ce recueil, mais qui porte sur l'article « Utopie en relation avec l'hospitalité ». Est édité dans ce gros volume qui a été fait sous les auspices de Alain Montandon, professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, je vous montre l'ampleur un petit peu de ce domaine de l'hospitalité, de sorte qu'on est un petit peu gêné, effectivement, lorsque on veut l'aborder, en faire une sorte de synthèse. Il y a plusieurs angles, plusieurs perspectives sous lesquelles on peut adopter cette idée. Je me contente, pour ne pas malgré tout dire des choses dans le vague, je me contente de vous donner un petit peu un aperçu très très rapide de la perspective dans laquelle personnellement, puisque chacun dans ce domaine-là a intérêt à parler sur son propre compte, effectivement, que dans laquelle personnellement j'avais abordé ce problème de l'hospitalité. Je vous dis donc que j'ai commencé à à en faire un thème. Et comme je suis professeur, et à ce moment-là, je n'étais pas encore à la retraite, tout au moins je venais de l'apprendre, enfin j'avais un séminaire, j'ai commencé à en parler au moment de la première, ce qu'on a appelé la première guerre du Golfe, c'est-à-dire la première guerre qui a été faite contre Saddam Hussein, qui avait envahi le Koweït. Même si cette guerre avait été, contrairement à l'autre, ratifiée par l'ONU, il y avait un grand nombre de personnes dont j'étais, Félix Gaftari également, qui vivait à cette époque-là, c'était en 89 ou en 90, avait pris position contre le Deleuze, etc. Il y avait d'autres philosophes qui, contrairement, ont pris à ce moment-là position pour, au nom du fait que Saddam Hussein avait envahi le Koweït et avait été l'agresseur. Mais il n'empêchait que engager pour cela une guerre qui risquait d'être une guerre mondiale, et qu'il était dans une certaine mesure, puisqu'elle convoquait tous les pays du monde, et contre un pays du Moyen-Orient, c'était quelque chose qui mettait très fortement en danger l'équilibre et la paix dans le monde. C'est pourquoi j'avais pensé devoir faire un cours autour de ces questions. En général, c'est aussi mes orientations à moi personnelles, lorsque l'on essaie d'étudier les problèmes de fondement du droit, et en particulier du droit international, on tombe nécessairement sur des auteurs classiques, sur des auteurs du XVIIIe siècle. J'étais tombé sur Emmanuel Kant, qui a écrit en 1795, c'est-à-dire à un moment où l'Europe était en proie justement aux coalitions et à des guerres répétées depuis 92, qui avait écrit un opuscule qui s'appelait « Vers la paix perpétuelle ». Ce mot de paix perpétuelle était intéressant, précisément parce qu'il était au cœur justement de préoccupations que pouvaient être celle des penseurs, des philosophes d'aujourd'hui, depuis d'ailleurs la Grande Guerre de 14, la Guerre de 40, etc., tous ces problèmes de savoir comment conserver la paix étaient des problèmes tout à fait à l'ordre du jour. Et j'avais vu, alors c'est ça, pour en venir, ce n'est pas ça que j'analyse, mais c'était pour en venir à ce mot d'hospitalité. J'avais trouvé dans ce texte une idée très intéressante qui m'avait paru, à moi, tout à fait nouvelle, dans sa grande simplicité, justement, c'est-à-dire sans ces idées dont on dit qu'il suffisait d'y penser, mais il fallait y penser tout de même, que pour Kant, dans son analyse, ce qui était au fondement même des guerres, et donc, à contrario de l'établissement de la paix, c'était le refus d'hospitalité ou la manière dont on n'avait pas entendu l'hospitalité dont les peuples, relativement les uns aux autres, avaient méconnu ce principe de l'hospitalité que les peuples et les nations devaient s'accorder les unes aux autres. Ce qui était à cette époque-là particulièrement intéressant et illustrable par tout ce qui se passait au Moyen-Orient, puisque au Moyen-Orient, précisément, l'affaire du conflit entre la Palestine et Israël qui est à l'horizon de tous les conflits, effectivement, du Moyen-Orient, les positions des différents peuples les uns avec les autres, c'était précisément des oppositions de rejet relativement à de certaines populations relativement aux autres. Et j'avais retenu ce principe qui me semblait tout à fait éclairant de Kant, et il n'y a qu'un seul principe. Il appelle cela, dans le langage de la logique kantienne, un principe transcendantal, c'est-à-dire un principe qui est au fondement de tous les autres, qui commande tous les autres. C'est le principe de l'hospitalité universelle. Mot très intéressant, qui était en résonance d'ailleurs avec la présence de ce mot chez un autre auteur que je lisais et également, et qui était Charles Fourier, qui écrit dans un de ses ouvrages, mais le présuppose un petit peu partout, que l'harmonie, c'est-à-dire l'état souhaitable du monde, une fois mis en association, le monde sociétaire, pratique une hospitalité universelle. Donc, ce principe d'hospitalité m'avait paru être un principe important dans l'établissement, dans l'analyse des différentes questions de droit. C'est ça qui m'avait porté vers une recherche d'où est sorti progressivement ce petit écrit que j'ai mentionné sous le nom de Zeus Hospitalier. Ça m'avait porté dans le domaine historique à la recherche des sources un peu dont on disposait de l'hospitalité dans l'antiquité gréco-latine, gréco-romaine, ce qui avait été d'ailleurs à l'origine de l'idée de mettre un grec là-dedans, et en particulier le roi des dieux, Zeus, qui a parmi ses caractéristiques sous lesquelles il était honoré dans l'Antiquité grecque, d'avoir des autels, d'avoir... Il n'a pas de représentation, j'en ai cherché en vain, mais il avait des autels, il avait des temples, etc. Il est mentionné dans beaucoup de textes, en particulier dans la tragédie d'Eschyle les Suppliantes, sous le nom de Zeus. Hospitalier, c'est pas un mot grec, mais en français, le mot grec correspondant, qui est xénéos, n'aurait pas été très bien compris. Et il fallait faire une sorte de mélange entre les deux langues. D'ailleurs, l'expression de ce hospitalier est mentionnée, je crois, je l'ai vu ensuite mentionnée par Peggy, d'ailleurs, dans Clio, où il mentionne à un moment le nom de Zeus Hospitalier. Donc cette manière de mettre un nom d'un dieu grec avec une qualité en langage romain ou français, enfin, mais d'origine latine, n'est pas du tout insolite dans les formes d'expression linguistique utilisables. Alors c'est ça, j'avais commencé donc par centrer autour de cette analyse de l'hospitalité universelle et de son rôle qu'elle joue en politique et en particulier en géopolitique, c'est-à-dire en droit international ou comme ce qu'il dit en droit cosmopolitique. J'ai garni un petit peu autour, en avant, en arrière, avec des études concernant cette historique de l'hospitalité. Voilà un petit peu la manière dont personnellement j'ai abordé ce problème. Mais le dernier point, c'est donnant à ce mot d'hospitalité nécessairement des applications, des orientations qui étaient toujours en train de déborder un petit peu leur point de départ, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'une étude purement historique, d'une étude purement juridique non plus. Il s'agissait, comme on dit, de faire jouer le mot, de l'étendre, de lui donner des significations au-delà de l'expatrié, un petit peu au-delà de son premier champ d'application, de lui donner des significations qu'il pouvait ne pas avoir eues au premier abord, de sorte que je suis parti un petit peu à la recherche de toutes les utilisations de ce mot dans la littérature en particulier, où la première chose en littérature qui m'a frappé et qui est effectivement d'ailleurs un fait de civilisation notoire, c'était l'importance colossale que ce mot et les analyses de ce mot et de tout ce qu'il implique pouvaient avoir dans les textes grecs et en particulier dans l'Odyssée d'Homère, qui est toute une histoire construite autour de cette notion de l'hospitalité. Et d'autre part, alors dans une littérature plus récente et en particulier dans littérature moderne ou contemporaine, j'avais été beaucoup intéressé par la place que ce mot d'hospitalier qui trouve d'une façon qui est très intéressante et qui n'est pas simplement anecdotique. C'est Flaubert qui a publié de parmi ses contes un conte appelé La légende de Saint-Julien l'hospitalier. Et également l'importance que cette notion et en même temps le mot, à travers le mot de hôte, joué dans un film qui est en même temps un récit de Pasolini, Théorème, qui était aussi quelque chose qui était une question où la notion d'hospitalité et où la présence et la terminologie, si on peut dire, le vocabulaire de l'hôte jouait un rôle très central. Cela m'avait entraîné d'ailleurs aussi, ainsi d'ailleurs que l'analyse faite à travers les textes grecs, qui déjà y avait induit à une réflexion sur cette notion d'hôte qui joue le rôle très très particulier d'être réversible, c'est-à-dire que l'on peut parler de l'hôte relativement à celui qui reçoit, et comme on peut parler de l'hôte relativement à celui qui reçut. Donc il y a l'hôte j'y reviendrai tout à l'heure faire la seconde partie de cette petite intervention. On peut appeler cet hôte qui reçoit, comme le fait Klosowski dans les lois de l'hospitalité, il l'appelle le maître de séance, et celui qui reçoit il l'appelle l'invité. Mais je trouve qu'il y a plus d'intérêt, peut-être justement en raison de l'ambiguïté, de l'équivoque permanente, ou de chassé-croisé, en fait, du jeu de balancement, à faire jouer l'ambivalence du terme, ce qui montre que relativement à l'hospitalité, on peut occuper tantôt un rôle, tantôt un autre, et qui étend aussi, qui ouvre des perspectives à la réflexion, c'est-à-dire, et en particulier dans cette idée que peut-être que pour la constitution de soi, comme pour la constitution d'autrui, comme pour la compréhension des relations qu'un individu peut entretenir avec les autres, il y a quelque chose où l'hospitalité joue un rôle fondamental, ou tout au moins où elle intervient un petit peu dans cet éclaircissement d'ordre philosophique et conceptuel. Le second point, qui est aussi un point qui peut apparaître linguistique au premier abord, mais qui est tout à fait important, et qui ne va pas tout à fait dans le même sens, mais qui participe un peu au même genre de recherche, c'est-à-dire chercher de quelle façon, je précise pour être clair, c'est-à-dire chercher de quelle façon l'hospitalité est une notion qui, par son approfondissement, peut nous ouvrir des domaines inaperçus. Alors là, par exemple, avec la réversibilité et l'ambiguïté du mot hôte, on voit bien qu'il y a une sorte de domaine inaperçu. On peut dire, mais pourquoi se fait-il qu'en fait, c'est le même nom. Dans beaucoup de langues, dans toutes les langues, ce n'est peut-être pas exactement la même chose, mais ce n'est pas la peine, là, de sortir du français. Tenons-nous-en au français. On voit bien que le mot a une ambivalence et peut vouloir dire à la fois celui qui reçoit et celui qui reçut. Alors, il y a un autre sens, je disais, c'est que il y a tout au moins en grec et tout au moins en latin une étrange ressemblance et même identité, c'est une homonymie entre le mot qui signifie hôte et le mot qui signifie son contraire, c'est-à-dire étranger ou ennemi. En grec, c'est xénos, en latin, c'est un peu pareil, c'est pas tout à fait le même, c'est hostis et hospes. Hostis qui signifie ennemi et hospes qui signifie hôte. Alors là, il y a eu des recherches. J'avais été chercher, je ne l'ai pas inventé tout seul, j'avais été chercher justement du côté de l'étymologie et trouver des recherches celui qui s'est illustré dans ce genre de recherche est Vandriès, qui avait c'était Benveniste, enfin les deux sont des linguistes également qui ont étudié sur cette étymologie. Donc ils avaient établi que dans ses racines, tout au moins en indo-européen, il faudrait s'ouvrir à d'autres langues incontestablement, où il faudrait savoir si le processus est le même. Dans le dictionnaire encyclopédique de Montandon, il y a un article intéressant. J'avais assisté d'ailleurs à l'exposé de cet article par un professeur de chinois, mais il est vrai que les Chinois sont toujours tout à fait intolérables et du côté de la précision de leurs propres idées, de sorte qu'on ne peut jamais savoir si c'est une théorie d'un sinologue ou si c'est une théorie généralement admise. Mais il avait établi que, et d'une façon très intéressante, qu'en fait cette réversibilité, cette parenté entre l'ennemi et l'hôte n'existait pas dans la langue chinoise, qu'on ne pouvait pas tirer par conséquent d'une façon universelle d'une propriété qui existait dans une langue européenne, dans les langues européennes, parce que c'est un problème de racine des langues européennes. On ne pouvait pas généraliser pour induire pour l'ensemble du fonctionnement de la pensée. Bon, c'est un problème intéressant. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article qu'il a écrit et qui se trouve publié dans cette encyclopédie de Montandon, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, il existe peut-être une autre compréhension pour certaines formes de pensée de l'hospitalité que celle qui a été diffusée et en Occident et qui s'est transmise jusqu'à nous. Quoi qu'il en soit, j'en reviens simplement à cette parenté entre les racines au niveau de ce qui représente l'ennemi et ce qui représente l'autre, d'où l'on tire à la fois étymologiquement et logiquement, on pourrait dire que à la fois il y a une certaine relation de similitude et de convertibilité entre l'ennemi et d'autre part l'hôte, et que la réception de l'hôte est une certaine façon de conjurer l'ennemi. C'est-à-dire c'est une transformation de l'ennemi en ami. C'est à ce niveau-là justement, par par les actes, par les rituels de réception, que ce qui est dangereux dans l'étranger, que l'on voit sous la forme de beaucoup de rites, on ne demande pas à l'étranger son nom, on l'accueille avec un respect considérable, se trouve transformé dans ces relations d'hospitalité. Du même ordre, d'ailleurs, est le fait que il y a dans l'Antiquité gréco-latine attribution, accord à l'hôte d'une qualité tout à fait exceptionnelle dans son caractère précisément anonyme, inconnu, c'est que il se peut qu'il soit un dieu, il se peut qu'il ait une qualité divine, de sorte que l'appellation de Zeus hospitalier c'est également, et se trouve sous cette forme aussi parfois, de Zeus hôte, c'est-à-dire qu'il peut se présenter aussi comme hôte, il peut être aussi l'inconnu qui vient demander l'hospitalité, ce qui fait que accorder l'hospitalité, ne pas violer l'hospitalité, l'accorder à n'importe qui sans interrogation préalable, entoure celle-ci d'un caractère sacré qui s'est, dans le cours de l'histoire, étendu au niveau du droit d'asile. Qui a disparu progressivement, mais qui reste quand même, dans une certaine façon, imprégné un peu dans l'arrière-fond des pensées et dans les comportements. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement gênant, d'extrêmement désagréable, lorsque on est appelé à violer ce droit d'asile, comme assez fréquemment, assez récemment, et fréquemment, d'ailleurs, cela a été fait par le fait que, par exemple, on a vu des gens qui donnaient, c'est surtout à propos des problèmes de l'indépendance basque, que cela s'est vu. On a vu emprisonner, arrêter des gens qui avaient donné l'asile à des Basques ou à des gens qui sont soupçonnés par la police, etc. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a dans l'hospitalité s'immisce toujours quelque chose qui est au-delà du droit, qui transgresse le droit. Derrida a donné à cela un qualificatif que je n'avais pas trouvé ni utilisé moi-même, mais que j'adopterai volontiers, c'est hyperbolique. J'avais utilisé l'expression de absolu, une hospitalité absolue, mais lorsqu'il dit l'hospitalité n'existe pas si elle n'est pas hyperbolique, ou elle tend toujours à devenir hyperbolique, il exprime bien, avec ce mot hyperbolique, ce qu'il y a dans la notion d'hospitalité, qui, tout en étant obligé, par suite de l'évolution des législations, et les transformations historiques, de s'insérer dans des législations étatiques et policières, malgré tout, dans son sens, transgresse ces législations. À quelque chose de plus fort, si on accorde l'hospitalité à quelqu'un, il est extrêmement délicat d'être mis en mesure disons, tout net, de le trahir ou de le livrer. Ces notions de trahison d'hospitalité, d'ailleurs, sont extrêmement fréquentes dans la littérature antique et sont un petit peu à la base même d'une très grande quantité de construction d'histoire et de légendes. L'hospitalité en elle-même est un domaine qui est particulièrement inviolable et sacré parce qu'elle atteint à quelque chose de beaucoup plus profond que les législations différentes et touche précisément à une très profonde relation à autrui. Et à travers la relation à autrui, d'ailleurs, à une relation à soi, une confirmation, une sorte de d'appropriation, si l'on peut dire, de soi-même, à travers l'hospitalité qui, par là même, acquiert une très grande force dans ce domaine de l'auto-affirmation et de soi et de la conscience que l'on peut avoir de soi et de la relation à autrui à travers l'hospitalité. C'était un petit peu ce que je voulais dire aussi lorsque, par exemple, je reviens et termine là-dessus cette première présentation. J'en aurai ensuite une toute petite autre, mais qui sera simplement le complément pour ne pas lasser l'attention. C'était ce que j'avais un petit peu présent à l'esprit dans l'analyse que j'avais proposée également de théorème de Pasolini dont je viens de vous parler, précisément parce que dans ce scénario, dans ce récit, Pasolini, si vous avez présent un petit peu à l'esprit le film ou l'histoire, accorde à l'hôte, ce qu'il appelle le Giovane Ospite, c'est-à-dire le jeune hôte, ce personnage anonyme qui arrive dans une famille et qui entretient des relations avec tous les membres et les transforme uniquement par sa présence, par son approche, et par les relations également physiques qu'il a avec eux. Il a une action de révélation que l'on a considéré parfois comme étant une révélation d'ordre religieux, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, ce qui n'est pas d'ailleurs nécessaire. Mais plus profondément, c'est précisément cette intervention en tant qu'hôte qui amène dans un milieu stable, clos, fermé de la société bourgeoise telle que Pasolini le présente, une transformation, une véritable source de révélation. C'est ça qui était au fond un peu dans mon idée de traiter de l'hospitalité sous différents aspects, je le répète, sous les aspects juridiques, sous les aspects historiques, sous les aspects de politique et de juridiction intérieure et internationale, d'aller chercher un petit peu la source philosophique et le nœud philosophique et en même temps sémantique, linguistique qui pouvait s'y trouver, et de montrer comment on pouvait la faire jouer dans ce sens-là d'une façon hyperbolique et constitutive à la fois pour l'individu et pour ses relations avec autrui. Voilà la première approche un petit peu que je voulais vous donner. Je ne m'arrête pas là, je vais même m'arrêter tout à l'heure, mais je voudrais vous demander encore une dizaine de minutes d'attention de façon à compléter, puisque j'ai ici là ce petit texte, vous voyez, j'ai donné dans le petit texte une seconde partie qui est partagée par un blanc. Et alors dans ce petit texte, je dis que j'aborde là l'hospitalité d'une façon qui est un petit peu spéciale, à travers en particulier l'hospitalité érotique ou l'hospitalité entendue comme étant l'introduction d'une relation généralement condamnée et exclue de l'hospitalité même, mais qui précisément, par suite de sa position très particulière, peut jouer un rôle révélateur, tel que c'est à travers Klosowski que je l'étudie, Klosowski l'a étudié dans un livre qui s'appelle « Les lois de l'hospitalité ». Vous le retrouverez, c'est les lois de l'hospitalité. Ici, c'est un livre déjà ancien, je ne sais pas quand est-ce qu'il avait été écrit vers les années. C'est avant 60. Dans les années 60. Ah oui, c'était même 54. La première parution a été en 54 et la seconde en 58. Il l'a fait paraître sous le double titre, d'ailleurs, de la révélation de l'édit de Nantes et des lois de l'hospitalité. Je ne suis jamais arrivé à comprendre très nettement quelle était, sinon par antiphrase, la relation entre ces deux mots, puisque s'il appelle la révocation de l'édit de Nantes, qui est précisément dans l'histoire, une loi, un acte de refus d'hospitalité, puisque la révocation de l'édit de Nantes, c'est l'acte par lequel Louis XIV a supprimé l'édit de Nantes qui tolérait, qui donnait aux protestants droit de cité, droit d'exercice de la religion en France, et qui a rompu, par conséquent, a violé les droits de l'hospitalité. Alors que ce qu'il appelle les lois de l'hospitalité, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rétablit, dit-il, une coutume. Qui n'a pas il l'a rétabli, enfin il l'a rétabli dans la fiction romanesque qu'il décrit, une coutume qui a été tombée complètement en désuétude, qui existait peut-être dans des temps archaïques, et il y a beaucoup de textes qui attestent son existence, incontestablement, c'était une hospitalité érotique, accordant la jouissance sexuelle à l'hôte sous la forme, il est vrai, de la femme ou des filles de l'hôte, donc d'une façon qui, à nos yeux, à l'heure actuelle, pourrait paraître scabreuse, moins peut-être d'ailleurs en raison de l'acte sexuel qu'en raison du fait que l'hôte, maître de séance, disposerait de ses femmes et de ses filles comme un peu comme des objets ou comme une monnaie d'échange, mais ce n'est pas ainsi que Klosowski l'envisage, c'est à travers la fiction. La fiction romanesque à laquelle il prête un nom dans ce livre pour ceux qui l'ont lu et qui s'appelle Robert et qui se prête au désir des invités qui se multiplie en quelque sorte ses relations avec la multiplicité des invités de façon à confirmer en quelque sorte le maître de séance dans sa propre dans sa propre réalité d'hôte je résume pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ne sont pas familiers avec cette logique paradoxale de Klosowski qui en donnant, en prêtant Robert à l'invité va lui-même pouvoir adopter cette position est la position de l'invité lui-même, de celui qui l'a invité. C'est-à-dire l'hôte va se trouver confirmé en lui-même en devenant l'invité de son propre invité par le fait que sa femme va coucher avec cet invité. Il y a tout un jeu de ce que Deleuze, analysant Klosowski, appelle cette sorte de pornographie théologique qui est paradoxale également, qui constitue tout l'art de Klosowski et qui est également toute la pensée de Klosowski qui est orientée essentiellement vers cette idée très 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 moderne qui appartient aussi à la philosophie de Deleuze, qui est celle de la nécessité de briser la clôture du moi, d'ouvrir le moi, de le dissoudre, et qui en même temps est une confirmation à travers cette dissolution du moi, non seulement de la multiplicité sur laquelle il s'ouvre, mais en même temps peut-être de son authenticité. Chose que l'on trouve dans le théorème de Pasolini, qui était un grand lecteur de Klosowski, dont il s'est inspiré également pour Salo, à travers la lecture qu'il donne de Sade, qui se trouve aussi s'ouvrir ce à quoi Klosowski lui-même fait allusion, à certains aspects de la pensée de Fourier, de l'œuvre de Fourier, dans le nouveau monde amoureux, de sorte qu'il y a là quelque chose qui est une sorte d'entrecroisement des orientations de Klosowski, de Sade, de Fourier, de Pasolini, autour de cette idée d'une hospitalité amoureuse qui joue essentiellement sur l'éclatement du moi, sur la nécessité de sortir de cette concentration égoïste sur soi et dans la relation avec l'autre, qui n'est pas une relation d'ailleurs simplement spirituel, mais qu'il est d'ailleurs aussi, puisqu'il s'agit aussi là de jeu d'esprit, tout autant que de jeu de corps, comme le dit très justement Deleuze dans son analyse qu'il fait dans Logique du sens de ces lois de l'hospitalité. C'est un entrecroisement du corps et de l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que cette pornographie soit purement corporelle. Elle est également écrite dans le langage, elle est jouée entre les différentes multiplications de ce personnage Robert, qui est à la fois une réalité, qui est à la fois un fantasme, et qui est également un signe, etc. Donc, il y a là un plan où se constitue d'une façon hyperbolique et même plus qu'hyperbolique un concept ou un jeu d'hospitalité qui met en question des notions telles que la conscience de soi, l'appartenance de soi à soi, l'ouverture ou la dissolution du moi, etc. J'ai mentionné ici dans le texte auquel je vous renvoie également un autre plan où l'on pourrait trouver comment l'hospitalité joue un rôle constitutif, mais dans un sens plus limité, à mon avis, et plus concentré sur soi que chez Klosowski ou que chez Deleuze ou chez Pasolini. Je mentionne ici un texte de Heidegger où Heidegger parle également de l'hospitalité et du rôle fondamental que l'hospitalité peut prendre relativement à la constitution de l'authenticité. Ce qu'en français généralement on traduit par authenticité, mais qui n'est pas c'est Eigenschaft, qui n'est pas ou Eigentlichkeit, qui n'est pas exactement qui ne fait pas apparaître exactement la notion de Eigen, qui en allemand signifie plus spécifiquement le propre, donc qui est un petit peu plus lié peut-être à l'identité de la personne que le mot d'authenticité ne ferait paraître en français. On pourrait dire qu'est-ce que c'est que vivre authentiquement ou être authentiquement. Ce n'est pas quelque chose de très très de très très clair, parce qu'on peut dire également on n'est authentiquement que dans sa relation avec autrui, et ce n'est pas nécessairement être authentique que d'être uniquement concentré sur soi-même. Mais quoi qu'il en soit, dans ce texte que je mentionne, et qui est une réflexion, une grande leçon, un grand ensemble de leçons, de cours que Heidegger a donné sur Hölderlin, sur le poème Der Ister, le Danube, que Hölderlin que Hölderlin avait écrit et dont il avait donné un commentaire également dans un texte antérieur qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser ?»« Was heißt denken ?» où il fait apparaître pour la première fois ce mot d'hospitalité, d'ailleurs en relation avec la pensée. Donc il donne à l'hospitalité, si l'on peut dire, un droit de cité philosophique très intéressant, mais il développe cette idée d'une façon plus ample dans le cours qui s'appelle Der Ister, le commentaire de Der Ister de Hölderlin, et je cite d'ailleurs cette phrase assez curieuse parce qu'elle est un peu redondante, mais elle est intéressante peut-être dans sa redondance même, où il dit « L'appropriation de ce qui est propre n'est que dans la confrontation et le dialogue hospitalier avec l'étranger ». Donc là, il affirme bien quelque chose du rôle constitutif de l'hospitalité. C'est pas tout à fait ce que, et c'est beau, c'est plus, c'est moins que ce que signifie Klosowski. Ça a un tour peut-être plus plus relatif à une sorte de d'appropriation de soi dans une théorie du moi individuel, tandis que chez Klosowski, il y a l'idée, justement, au contraire, d'une sortie de soi, d'un dehors de soi, d'une extériorisation, d'une multiplication de l'individu dans ses différentes formes à la fois spirituelle et corporelle de relation avec autrui. Donc, la conception que donne ici Klosowski, ou celle que l'on trouve également dans certains passages de Fourier, est plus conforme, effectivement, à cette philosophie de la qui dans le sens adopté également par Deleuze est celle de la dissolution du moi, de l'abandon de la philosophie du sujet pour une philosophie beaucoup plus ouverte, et que dans le sens un petit peu de ce que Lévinas a appelé au-delà de l'être, plus que l'être, au-delà de l'essence, etc., autrement qu'être. Donc c'est de ce côté-là, je pense, c'est là que serait mon orientation, telle que je la propose un petit peu dans cet argument, que c'est au-delà donc de l'être, au-delà de l'essence, dans une multiplication, dans une ouverture, on pourrait presque dire dans une préférence d'autrui relativement à soi, dans une sorte d'antériorité philosophique d'autrui relativement à soi, que se verrait la vertu, la fonction, j'appelle cela un concept opératoire, l'opération conceptuelle de la notion d'hospitalité, qui, vous le voyez là, incontestablement, ce sont des aperçus qui, incontestablement, nous portent d'un côté très hyperbolique dans le maniement, dans comme pour employer encore un langage de Deleuze, la déterritorialisation absolue que l'hospitalité peut pratiquer, peut jouer pour nous dans cette ouverture, dans cette transformation conceptuelle. Je disais également, il ne s'agit pas tellement d'une dialectique dialectique, même au sens où le mot dialectique évoquerait un système clos, un système de type hegelien, par exemple, ou parfaitement retournant sur lui-même du point de vue logique, mais il s'agit plutôt d'une série, d'un enchaînement de relations paradoxales qui ainsi mènent la pensée, mais à travers une succession de paradoxes. Voilà un petit peu ce que je voulais indiquer dans cette présentation et dans le petit texte là que je vous demande de regarder attentivement, parce que c'est écrit sous une forme assez concentrée, mais qui donne un petit peu, sauf Lévinas, dont je n'ai pas parlé, mais enfin, qui donne un petit peu l'orientation de mes réflexions qui sont présentes également dans ces quelques articles ou livres que je vous ai présentés. Merci, merci. Il y a peut-être des demandes ou des discussions ou demandes d'éclaircissement. Paulette, puisque je t'ai mis un petit peu sur la sellette à travers Lévinas, puisque tu en avais parlé. Donc,
Monsieur, voilà, il y a une question.
Monsieur.
Je vous écoute, oui. Mais je ne vous comprendrai pas, parce que comme je suis sourd, c'est ça le grand problème. Oula, attention, vous allez vous faire mal.
Votre texte.
Oui.
Je le trouve magnifique. Je fais moi-même partie d'une association, on peut dire d'hospitalité, qui reçoit des gens du monde entier. Et qui devient hôte dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est l'hospitalité même, c'est aucun commerce, c'est une relation entre les gens du monde entier, les gens d'ici, enfin moi, vous. Puis-je me permettre d'envoyer ce texte à mon association ?
Ah bon ? Bien sûr. Si vous voulez. C'est-à-dire que la première partie de ce texte, je l'ai donné à, je peux permettre, je l'ai donné à, la première partie, c'est-à-dire jusque, toute la première page, jusqu'à Edmond Jabès, entre parenthèses, je l'ai donné au, c'est ça, oui.
À qui?
À Tram.
Et c'est ça.
Pour l'instant, du coup, ce texte, il faut qu'il soit.
C'est eux qui le possèdent.
Voilà.
C'est ça. Il ne faudrait pas que les autres le publient parce qu'ils diraient à ce moment-là que je n'ai pas envie d'en refaire un autre.
Ce n'est pas une publication, c'est un...
Il faut attendre un petit peu parce que...
Il faudrait attendre qu'il l'ait publié.
S'ils
l'ont publié, vous avez le droit de l'utiliser en disant à quel endroit il est publié. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas... La seconde partie n'est pas publiée. C'est-à-dire à partir de l'intervalle d'Edmond Jabès. Mais pour le premier, la coutume, c'est effectivement que s'ils l'auront publié le 12 mars, non? Parce qu'ils... Non.
Pas avant le 15 mars, on va dire, parce que moi je suis pas
sûr. Eh bien, attendez, avant, jusqu'à fin mars. Attendez fin mars, ensuite vous le mettrez, c'est ça, oui. Bien que la seconde partie, je ne l'aurais pas donnée, oui.
Après le 15 mars.
Oui. Mais si vous faites, c'est ça, je voulais insister, parce que là, je me suis lancé plutôt dans une digression un peu verbale sur l'explication de ce que pouvait être du point de vue proprement philosophique le fait de philosopher, si on peut utiliser ce terme comme un verbe, de transformer philosophiquement, surtout d'utiliser, de modeler philosophiquement l'usage de ce mot d'hospitalité, de le conceptualiser, si l'on peut dire. Mais peut-être que par là, on a l'impression d'un excès peut-être d'abstraction, c'est-à-dire qu'il passerait à côté de choses quand même plus simples, et qu'il faut aussi en permanence rappeler, et qui est au fond quand même de nos attitudes quotidiennes. En effet, c'est que tout le monde est frappé par le fait que dans le langage politique, et que ce soit un langage politique de droite ou de gauche avec peut-être certaines modifications, mais enfin qui est à peu près identique, on ne considère jamais l'étranger que comme un problème négatif, c'est-à-dire comme étant quelque chose ou une personne qui, en fait, a relativement, sur le plan des droits, a des droits qui doivent être limités, et peut-être sans doute toléré, mais qui de toute façon est plutôt une gêne, un ennui qu'autre chose. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée de considérer la présence de l'étranger comme étant positive, comme étant un apport, comme étant quelque chose qui a une qualité, non pas de parasite, mais au contraire d'apport de richesse, est quelque chose qui témoignerait d'une modification, qui exigerait une modification très grande dans les comportements politiques et dans le discours. Or, ce qui est très intéressant et notoire, d'ailleurs, c'est précisément que le discours politique est toujours fait pour la préservation de ce qu'on pourrait appeler la protection nationale, l'identité nationale. C'est pas étonnant d'ailleurs, puisque toujours les discours politiques sont des discours identitaires. On pourrait dire que la certitude du moi, ou entre l'identité réclamée sur la carte d'identité administrative ou policière et l'identité personnelle que l'on se fixe à toi-même, il y a effectivement une relation extrêmement étroite. C'est-à-dire que toute l'éducation, toute l'enfance, toute la psychologie courante, c'est d'affirmer chacun, de replier chacun sur son identité. C'est-à-dire chacun, et il faut dire que tout le monde y consent très 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 volontiers. C'est-à-dire que on pose toujours des problèmes qui sont des problèmes relatifs à l'identité. Mais même dans les cas les plus respectables, c'est toujours des problèmes d'identité qui sont mis au premier lieu. Or, je crois que la réflexion sur l'hospitalité a pour intérêt justement de nous détourner du caractère fondamental et essentiel de ces problèmes d'identité. Non pas que il n'y ait pas d'identité à conserver, peut-être que la dissolution du moi, effectivement, peut conduire à un certain moment à la folie, à l'aliénation mentale, mais que le problème n'est pas tellement de dimensionner en premier lieu ce danger de conduire à l'aliénation ou à la dissolution mentale à travers la dissolution du moi, mais de porter attention justement sur les dangers de cette affirmation obsessionnelle, de cette protection obsessionnelle autour d'une réalité identitaire. Je pense que dans ce domaine, on pourrait dire que un minimum d'identité est évidemment indispensable, ou un minimum de moi, un minimum de points d'ancrage, c'est absolument incontestable. Mais toute la différence, toute la sagesse ou la ou la pensée philosophique et morale consiste à estimer justement quelles sont les gradations, quelle est, comme le disaient les anciens, la mesure exacte de cette chose-là. Or, il est incontestable que les discours en place dans l'ordre politique insistent exclusivement sur les problèmes d'ordre identitaire, des problèmes de défense, des problèmes de repli, d'exclusion de l'étranger, etc. C'est un peu là-dessus que, et autour de cela, je pense que la discussion aurait intérêt à porter.
Justement, Paulette, oui. Est-ce qu'à ton avis, l'hospitalité hyperbolique,
oui,
se limite à l'humain?
Qu'est-ce que tu entends par là? Tu veux dire qu'il toucherait le divin ou l'animal?
Est-ce qu'elle est réductible à l'humain?
Oui.
À l'homme?
Oui.
Oui, si tu veux le divin, l'animal.
Mais elle est. Oui et non. C'est-à-dire que si elle tend. Elle introduit. C'est un peu. Chaque fois que l'on utilise. Là, cette. Cet appel à l'humain, on est un petit peu gêné. C'est-à-dire que l'humain, par opposition à l'inhumain, c'est-à-dire que toute autre réflexion philosophique est effectivement une réflexion autour de l'homme et prend l'homme comme point d'appui, mais en même temps l'homme en tant que justement il est questionné et l'on discute sur son identité où elle pose le problème en même temps de qu'est-ce que l'homme où met l'homme dans un état de relativité, qu'est-ce que l'homme par rapport à l'animal, qu'est-ce que l'homme relativement au divin, etc. Donc il y a à la fois l'un et l'autre, ça se limite, oui ça se à la fois ça se limite à l'humain, mais dans la mesure où l'humain est mis en question. C'est-à-dire que où on ne peut pas aborder l'humain sans aborder la question du plus qu'humain ou la question du surhumain, dans le sens de Nietzsche. Donc, c'est une question de constitution. On peut dire que là, je dirais volontiers que l'hospitalité fait partie intégrante, c'est-à-dire les modes, les rituels, les coutumes d'hospitalité ont fait partie intégrante de l'humanisation humaine, si l'on peut dire. Mais en même temps, avec quelque chose qui, justement, faisait appel à d'autres choses, par exemple en Grèce, par exemple, l'hospitalité a cette force constitutive précisément parce qu'elle fait appel à du plus qu'humain. L'étranger est Dieu, donc il y a quelque chose qui permet d'humaniser en quelque sorte les relations avec l'étranger précisément parce qu'il est plus qu'humain. Donc on rencontre toujours ce jeu entre l'humain et le plus qu'humain. Ou quand on dit par exemple quelqu'un qui aussi est du côté, si l'on peut dire, de la critique de l'humain, mais qui utilise cela, Lyotard par exemple, lorsqu'il écrit l'inhumain, il est incontestable que ça ne veut pas dire que pour cela, il dirait qu'il s'agit simplement de conserver la notion d'homme et de raisonner que la philosophie graviterait autour de la notion d'homme. Et c'est en même temps de la critique. Mais il y a l'inhumain dans la mesure où, justement, une certaine évolution de la société, des techniques, des sciences, fait que l'on ne peut que résister contre la perspective de la déshumanisation des relations, etc.
Vous avez mis en lumière les relations entre hospitalité et identité. Dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait aussi une relation nécessaire entre l'hospitalité et l'appartenance d'une part, l'hospitalité et la souveraineté d'autre part? Pour que je puisse être hospitalier, c'est quand même relatif à quelque chose qui m'appartient,
c'est
un lieu dans lequel j'ai une certaine souveraineté.
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que l'hospitalité ne passe pas par la propriété?
C'est exact. C'est un peu le sens, d'ailleurs, de ce texte que dont je vous ai cité une phrase de Heidegger, puisque c'est la propriété, puisqu'il dit à ce moment-là, dit Eigenung des Eigenen, donc c'est la propriété dans le sens un peu stirnérien de l'unique et sa propriété, mais en même temps c'est aussi la propriété au sens le plus simple du terme. On ne peut être propriétaire que si l'on a le droit de recevoir quelqu'un. Il y avait autrefois les personnes qui faisaient de la sous-location, faisaient la sous-location, c'est-à-dire d'une chambre, mais surtout, vous n'avez pas le droit de recevoir. Attention, disait-elle aux étudiants, ne recevez pas de femme, ne recevez pas votre petite amie. Donc, à ce moment-là, on était bien logés, mais on n'était pas propriétaires. Et si l'on est propriétaire, c'est que on peut recevoir qui l'on veut. Et Derrida, relevant ce fait, d'ailleurs, dans son livre sur l'hospitalité, il mentionne que l'État moderne, tout en garantissant la propriété, porte des atteintes à ce droit en établissant le droit, par exemple, de l'obligation de dénonciation si on ne peut pas, si quelqu'un reçoit, je ne sais pas, un criminel, bon, il ne le peut pas parce que il n'a pas le droit de donner l'hospitalité à quelqu'un qui est sous le coup des lois. Donc il y a une limitation, effectivement, du droit de propriété à ce moment-là. L'hospitalité, dans ce sens, pour revenir à la question que vous posez, eh bien, effectivement, une confirmation du droit du propre et de l'eigen. Mais je pense que par cette logique paradoxale qu'il va établir de ce qu'il appelle l'actualisation de l'essence de l'autre, de l'hôte, dans l'invité, Klosowski, dans les lois de l'hospitalité, propose une sorte de retournement tout à fait intéressant, parce qu'il montre que ce que l'autre va chercher, ce n'est pas la confirmation de sa propriété en tant qu'appartenance, propriété de son logis, mais en même temps propriété de Robert, puisque, admettons ce mot, puisque Klosowski lui-même dit de ce Robert que c'est plutôt un signe ou une sorte d'entité qu'une réalité humaine, mais c'est ce par quoi, justement, il y a communication pleine, communication au niveau également sexuel, sensuel, avec cette existence entre l'autre et l'invité. Elle devient une sorte de lieu de médiation où se joue ce qu'est le problème théologique et de cette logique un peu pornographique et théologale de Klosowski, c'est-à-dire l'actualisation de l'essence, le passage de l'essence à l'existence, la convertibilité de la substance de l'hôte en celle de l'invité réciproquement. Je vous renvoie vers les textes très étranges et très intéressants de ce livre, où l'on dépasse justement cette sorte d'évidence un peu fermée sur soi, il faut le dire, l'eigen, du propre ou de la propriété. Ça se trouve d'ailleurs, je viens de parler de Stirner, si vous regardez Stirner, Et vous voyez que c'est que chez Stirner, c'est loin d'être clair d'ailleurs aussi, parce qu'il dit bien l'unique et sa propriété. On l'a traduit souvent on l'a interprété souvent comme étant une sorte d'anarchisme individualiste, et Marx et Engels même ont critiqué Stirner dans la mesure où il était en lui reprochant de défendre la propriété bourgeoise, etc. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas donner les références ici, mais enfin c'est facile à trouver. Il y a chez Stirner quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ce propre ne s'identifie pas du tout, au contraire même, puisqu'il critique beaucoup tout l'univers bourgeois, c'est fait pour cela, à la propriété bourgeoise. Et justement, le moi ne se limite pas du tout à ce qu'il appelle, un peu dans le sens qu'utilisera Nietzsche ou qu'utilisera Max Scheler également, des idoles, c'est-à-dire des entités, des choses toutes faites. Dans ce Eigen de Stirner, il y a quelque chose qui est tout à fait un dépassement de l'homme, mettons cela entre guillemets, ou bien de la personne, etc., des choses qui sont des segmentations sociales, des identifications sociales. Il y a quelque chose qui, un peu comme chez Nietzsche d'ailleurs, lorsque Nietzsche parle du moi, mais en même temps du moi qui est aussi un dépassement du célèbre cogito, de l'identité de la personne, etc. Donc il y a là une sorte de complexe qui se joue et qui fait qu'il y a à la fois confirmation et adaptation et réalisation de la propriété, mais en même temps éclatement de ce mot de propriété qui est quelque chose de beaucoup plus subtil que les formes immédiates que l'on voudrait lui substituer sous le nom de moi personnel, ou sous le nom d'homme, ou sous le nom de propriété privée.